Oui. On est deux.
Voilà, on est deux. Et ce soir à la technique, c'est pas notre technicien habituel, c'est Manu qui a bien voulu le remplacer puisque Ronan aussi est parti dans sa Bretagne natale passer quelques jours de vacances.
Et merci Manu, on te remercie.
Voilà, merci à toi, effectivement. Donc ce soir, on a plusieurs choses à vous dire. On va développer une assez longue séquence sur des bonnes nouvelles. Amnesty International mondial, au niveau mondial, a fait une espèce de petite compilation de plus d'une trentaine de bonnes nouvelles pendant l'année 2016. Et disons un petit peu en pendant au fait de dire que les droits humains ne vivent pas des jours très très positifs en ce moment, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ce qui était tout à fait exact, qui ne vont pas vraiment dans le sens que nous on souhaite. Mais Amnesty a quand même voulu effectivement marquer le coup en rappelant qu'il y a quand même aussi des choses positives qui se passent de façon continue pendant l'année et que curieusement ces informations-là vous les entendez beaucoup moins sur les antennes, sauf sur celle de Principe Actif, sur les antennes des radios, des médias et dans les journaux, que tout ce qui nous rappelle la guerre, les tueries, les meurtres, les exactions diverses. Voilà, donc on va quand même passer un bon moment de l'émission à vous en parler. On va passer aussi un petit peu plus de musique que d'habitude, parce que pendant les fêtes, c'est important aussi d'écouter de la musique. Donc on va en mettre un petit peu plus que d'habitude. Et puis on va vous parler aussi, on va commencer par ça d'ailleurs, par vous parler d'une actualité qui concerne les robots tueurs. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais vous en saurez un petit peu plus quand vous nous aurez écouté. On va vous parler aussi quand même d'une interview d'Olivier Roy, qui est un politologue qui a été interviewé dans le dernier numéro de la chronique, qui est le mensuel d'Amnesty International, et qui parle de Daesh et de super-héros. Donc vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure. On va vous parler aussi d'un appel à l'action. On va vous parler de nos actualités locales. Enfin bref, de quoi largement vous tenir en haleine pendant l'heure qui vient. Voilà. Donc Sabine, vous en dire un petit peu plus, comme je vous disais, sur qu'est-ce donc que ces robots tueurs.
Voilà, alors Amnesty a fait un petit article et on a 10 raisons pour lesquelles il faut interdire les robots tueurs. Ça a été publié le jour de Noël, le 25 décembre 2016. Les gouvernements réunis à Genève en cette fin d'année se sont engagés en faveur d'un processus mondial de négociation et d'interdiction des robots tueurs. 10 raisons qui doivent nous pousser à prendre conscience de cette menace qui est bien réelle. D'abord, les robots tueurs ne sont plus de la science-fiction. Une fois activés, les robots tueurs peuvent sélectionner, attaquer, tuer ou blesser des cibles humaines sans intervention de l'homme. Appartenant jadis au domaine de la science-fiction, ces armes, aussi appelées systèmes d'armes entièrement autonomes, AWS, vont bientôt devenir une réalité. De nombreux précurseurs de cette technologie existent déjà. Le drone Shadowhawk, développé par la Vanguard Defense Industries aux États-Unis, par exemple, il peut être équipé d'un lance-grenade, d'un fusil avec désignateur laser, ou d'armes à létalité réduite comme un taser ou un lanceur de sac à fèves. Je ne pense pas que ce soit les fèves auxquelles je pense, mais bon, je ne m'y connais pas trop, mais ça ne prédit rien de bon tout ça. En 2011, le bureau du shérif du comté de Montgomery, au Texas, a acheté un Shadowhawk non armé en utilisant une subvention du département de la sécurité du territoire. En août 2015, le Dakota du Nord est devenu le premier État américain à légaliser l'utilisation de drones qui peuvent être dirigés à distance pour immobiliser des personnes en leur administrant des décharges électriques à haute tension.
Une petite précision sur ce que vous a dit Sabine, parce que le Shadowhawk, ça veut dire en fait l'aigle de l'ombre. Voilà, l'aigle de l'ombre, ça fait peur.
Eh ben, c'est des sacrés aigles de l'ombre, tu verrais la gueule du robot. Je vais dire que moi, les manifs avec ça, c'est même pas la peine.
Deuxième raison pour laquelle il faut s'opposer à l'utilisation des robots tueurs, ils peuvent être ouvertement utilisés pour réprimer par les gouvernements n'ayant pas à rendre de compte. Certains gouvernements affirment que les robots tueurs réduiraient les risques inhérents au déploiement de soldats sur les champs de bataille ou de policiers lors d'opérations de maintien de l'ordre. Les gouvernements pourraient alors plus aisément s'engager dans des conflits armés et utiliser la force pour, par exemple, maintenir l'ordre lors des manifestations. La sécurité des soldats et des policiers serait peut-être renforcée, mais cela risquerait d'engendrer une hausse des affrontements et des recours à la force et par conséquent des risques pour les civils. Les partisans des robots tueurs avancent également que leur absence d'émotion éliminerait les caractéristiques humaines négatives telles que la peur, la vengeance, la rage et l'erreur humaine. Or, contre des êtres humains, même à grande échelle, ils seraient incapables de refuser un ordre, ce qui sauve parfois des vies. Lors des manifestations de masse en Égypte en janvier, l'armée a refusé de tirer sur les manifestants, un acte qui exigerait la compassion inhérente à l'homme et le respect de l'état de droit. En gros, le problème que ça pose, c'est qu'évidemment, ces machines sont tout à fait incapables de ressentir quoi que ce soit.
Et ça obéit sans condition. La troisième bonne raison est qu'ils ne sont pas conformes aux normes internationales relatives aux droits humains et au maintien de l'ordre. Enfin, je pense que c'est des normes qui ont été bien bafouées ces derniers temps. On en parlera tout à l'heure par rapport à Alep,
oui.
Et la Syrie. Donc, normes qui interdisent normalement l'usage d'armes à feu, sauf en cas de risque imminent de mort ou de blessure grave. Et il précise que la force ne doit être utilisée que dans les limites du minimum nécessaire. Minimum nécessaire. Il est très difficile d'imaginer une machine se substituer au jugement humain en cas de risque immédiat et direct d'homicide, d'utiliser ensuite la force appropriée dans les limites du minimum nécessaire pour stopper l'attaque. Pourtant, un tel jugement est d'une importance cruciale lorsqu'il s'agit de déterminer s'il faut utiliser une arme dans la plupart des situations. Les policiers sont tenus par les normes de l'ONU de recourir en premier lieu à des moyens non violents comme la persuasion, la négociation et le désamorçage, avant de recourir à toute forme de force. Maintenir l'ordre ne se résume pas au simple usage de la force. Cela requiert des qualités humaines que sont l'empathie, la négation et la capacité d'évaluer ou de réagir à des situations souvent dynamiques et très imprévisibles. On ne saurait réduire ces compétences à de simples algorithmes. Elle suppose d'évaluer des situations en perpétuelle évolution et de déterminer comment protéger également le droit à la vie et à l'intégrité physique, ce que des machines sont tout simplement incapables de faire. Lorsque des responsables de l'application des lois décident d'employer la force minimale dans les situations précises, ils font appel à leur jugement humain sur la nature de la menace et le contrôle efficace de toute arme. Pour faire simple, ces décisions dans des situations de vie ou de mort ne sauraient être déléguées à des machines.
Le quatrième point pour lequel donc nous estimons qu'il ne faut pas accepter l'utilisation de robots tueurs. Ils ne respectent pas les lois de la guerre. Ça peut paraître bizarre cette expression de loi de la guerre, mais je vous renvoie à l'émission, la dernière émission, celle précédente, là, du début du mois de décembre, où j'avais rappelé le point de vue d'Amnesty par rapport justement au respect ces lois de la guerre. Et oui, même pendant la guerre, il y a normalement, bien sûr que c'est très très mal respecté, mais il y a normalement des accords internationaux qui font que les armées en présence ne devraient pas faire n'importe quoi, surtout par rapport au massacre de civils. Bien sûr, on est tout à fait conscient que c'est très très mal respecter, voire pas du tout. Mais les lois de la guerre, effectivement, au niveau international, ça existe. Voilà. Donc voilà ce que dit Amnesty par rapport à ces robots tueurs et les lois de la guerre. La distinction, la proportionnalité et la précaution sont les trois piliers du droit international humanitaire ou loi de la guerre. Les forces armées doivent faire la distinction entre combattants et non-combattants. Les victimes civiles, les dommages causés à des bâtiments civils ne doivent pas être excessifs par rapport aux gains militaires attendus. Et toutes les parties doivent prendre les précautions nécessaires pour protéger les civils. Tout ceci clairement requiert un jugement humain. Les robots n'ont pas la capacité d'analyse les intentions qui sous-tendent des actions, ni de prendre des décisions complexes concernant la proportionnalité ou la nécessité d'une attaque, sans parler de la nécessité de faire preuve de compassion et d'empathie à l'égard des civils pris au piège de la guerre.
Une cinquième raison d'être contre les robots tueurs, c'est qu'ils ne pourraient rendre de compte et leurs commanditaires non plus. Si un robot agit en dehors de la loi, comment pourra-t-il être traduit en justice ? les personnes l'ayant programmé, fabriqué, déployé, ainsi que les officiers supérieurs et les leaders politiques, pourraient être amenés à rendre des comptes. Cependant, ces personnes ne pouvant pas raisonnablement prévoir la réaction d'un robot tueur dans une circonstance donnée, cela créerait un déficit de responsabilisation. Déjà, les investigations sur les homicides illégaux imputables à des frappes de drones sont rares et personne ou presque n'est amené à rendre de compte. Il commence à y en avoir pas mal quand même. Dans son rapport sur les frappes de drones américains au Pakistan, Amnesty International a dévoilé le secret entourant le programme d'assassinat ciblé par des drones menés par le gouvernement des États-Unis et son refus d'expliquer le fondement légal international de ces attaques individuelles, faisant craindre que les frappes dans les zones tribales pakistanaises n'aient bafoué les droits humains. Garantir l'obligation de rendre des comptes pour les frappes réalisées par drone s'avère suffisamment ardu si l'on ajoute la strate supplémentaire qu'impliquerait l'usage de robots tueurs dans les décisions relatives à la cible et à sa suppression. Avec les robots tueurs, il y aura très probablement une augmentation des blessures et homicides illégaux, à la fois sur le champ de bataille et durant les opérations de maintien de l'ordre, nous dit Abdul Rahim, avocate à Army Control Security Trade Human Rights à Amnesty International.
Alors, le sixième point pour lequel on continue à être contre, c'est le développement des robots tueurs, une nouvelle course à l'armement. La Chine, Israël, la Russie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis comptent parmi les États qui développent actuellement des systèmes permettant de rendre les machines plus autonomes au combat. Des entreprises dans plusieurs pays ont déjà développé des armes robotisées semi-autonomes capables de projeter des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des aiguillons à impulsion électrique lors des opérations de maintien de l'ordre. Au regard de l'histoire du développement des armements, ce n'est plus qu'une simple question de temps avant qu'une nouvelle course à l'armement de haute technologie ne soit lancée. Les États s'efforceront de mettre au point et d'acquérir ces systèmes, déclenchant leur prolifération. Ces armes finiraient dans les arsenaux des gouvernements sans scrupules et au final entre les mains d'agents non gouvernementaux, notamment des groupes armés d'opposition et de gangs criminels.
Septième bonne raison. Autoriser des machines à tuer, le franchissement d'une ligne morale fondamentale. On a tous vu des films qui nous... il y a quelque temps, qui... Eh bien, on y est, c'est voilà, des robots qui vont détruire, qui vont en toute impunité, parce que ça sera top secret, et puis voilà, il y aura de compte à rendre à personne. Confier à des robots un pouvoir de décision dans des situations de vie ou de mort revient à franchir une ligne morale fondamentale. Pas seulement parce que ces robots-là, il y a quand même quelqu'un qui décide à leur place, mais effectivement, eux ne seront pas jugés.
La huitième raison, c'est qu'il sera impossible de stopper les robots tueurs. Comme le démontre la multiplication non contrôlée des drones, lorsque des systèmes d'armes sont employés, il est très difficile, voire quasi impossible, de réglementer ou de réfréner leur usage. L'enquête Drone Papers, récemment publiée par The Intercept, si elle est confirmée, dépend à tableau alarmant du programme américain d'assassinat ciblé par des drones. Selon ces documents, sur une période de 5 mois, 90% des victimes de frappes américaines réalisées par drone n'étaient pas des cibles désignées, ce qui souligne l'incapacité du gouvernement des États-Unis à garantir la transparence du programme des drones. Il semble qu'il soit trop tard pour interdire l'utilisation des drones équipés d'armes, mais il convient de la restreindre à un seul usage, sauver des vies civiles. Les robots tueurs augmenterait grandement le risque d'homicides illégaux. C'est pourquoi il faut les interdire à titre préventif. Adopter une approche attentiste pourrait déboucher sur une hausse de l'investissement dans le développement de systèmes d'armes et aboutir à leur prolifération rapide.
Neuvième raison. Des milliers d'experts en robotique demandent l'interdiction des robots tueurs. En juillet 2015, des chercheurs, des scientifiques, des professionnels du monde de l'intelligence artificielle, parmi les plus pointus, ont signé une lettre ouverte pour demander l'interdiction totale des robots tueurs. Elle a jusqu'à présent recueilli 2587 signatures, dont celles de 14 présidents passés et actuels, d'organisations et d'associations professionnelles du monde de l'intelligence artificielle et de la robotique. Parmi les illustres signataires figurent le directeur général de Google, DeepMind Demis Hassabis, le PDG de Tesla et Elon Musk, le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, le cofondateur de Skype, John Tallin, et le professeur Stephen Hawking. Okay. Bon, y en a beaucoup d'autres, j'ai été voir, mais tout était en anglais. Donc, la lettre ouverte, ça sera pour la prochaine fois.
Voilà, et dernière raison, c'est ça ? Depuis 2 ans, il y a eu beaucoup de débats, mais peu d'actes. Depuis que les problèmes posés par les robots tueurs ont été mis en lumière en avril 2013, les seuls véritables débats internationaux sur cette question ont été 2 réunions informelles d'experts d'une semaine à Genève dans le cadre de la conférence sur la convention sur certaines armes classiques. Si peu de temps pour un risque si grave et si peu de progrès, c'est consternant. Pour Amnesty International et ses partenaires de la campagne visant à stopper les robots tueurs, la seule solution est une interdiction totale du développement, du déploiement et de l'utilisation de systèmes d'armes létaux autonomes. Le monde ne peut plus attendre pour agir contre cette menace. Il est temps de faire preuve de détermination et d'interdire définitivement les robots tueurs. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur...
Moi, j'avais juste mis, je rajouterais...
Oui, vas-y, oui, vas-y, vas-y.
Qui est à la tête des filiales de vente d'armes.
Oui.
Donc, à mon avis, on peut y aller pour les pétitions. Il va falloir des tonnes et des tonnes, là. Et effectivement, ça va avec ce que demande Amnesty International, considérant que les civils sont les premières victimes des conflits et qu'ils doivent être protégés. Et que des robots tueurs, je ne vois pas vraiment des robots tueurs protéger les civils. On lance.
Bien, on va faire après ces considérations, donc on attend votre aide pour cette campagne qui va continuer sur l'interdiction des robots tueurs. On en reparlera dans les prochaines émissions.
Ils existent déjà.
Ils existent déjà, oui.
Et les drones sont passés inaperçus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune législation interdisant la clé. Aucune législation interdisant d'utiliser les drones. Donc, faut peut-être être un petit peu plus réactif et réagir parce que ils sont là, ils sont à l'essai, ils sont vendus dans pas mal de pays déjà. Et puis, ça va être un véritable désastre.
Bon, on va faire une petite pause musicale.
Oui, on parlera des drones de secondes.
Qu'est-ce qu'ils envoient, les drones ? Des bombes ou des bonbons pour les petits-enfants ? On tue 50 gamins pour avoir un terroriste ? On paye pas le tiers-monde, peut-être ? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington. On a vu l'effondrement de la bulle financière. Mais on continue à imprimer de la monnaie pour retarder l'inéluctable. Dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout.
Bush, Trump, Obama ou Clinton, c'est vrai qu'on en fait tous des tonnes. Sûrement cette peur du bouton rouge qu'on actionne et que l'écho d'une bombe détonne. Comme 1945 sous mandat Truman, tous ces civils que les missiles condamnent. Et dans ces villes, la ruine des domiciles et des cancers qui en émanent. Hiro Nagasaki, l'histoire d'un conquis combat l'inconquis. On vote souvent pour qui le mieux mitonne. Et quand président crapuleux, ça nous étonne. Dans tous les coins du monde ça pète. Des hommes toujours en quête de conquête. Fabriquent et lancent des roquettes. Ou vendent aux plus offrants des mitraillettes. Pour financer leurs traces, palaces et paillettes. Des gosses à qui l'on monte la tête pendant que leur plomb pète. Tous les plus malhonnêtes qui manient les manettes et manipulent au loin leurs marionnettes. Hommage aux victimes du Bataclan. À Charlie, aux Afghans, aux Kurdes, aux Tchétchènes. On y soit, tous ces morts d'où qu'ils soient. Aux Palestiniens, aux Rwandais, aux Syriens, à tous ces terriens morts pour rien. Tous les satyres qui tirent au flanc, au nom de qui, de quoi font-ils couler le sang des innocents?
Au nom de qui, de quoi font-ils couler le sang des innocents?
De qui, de quoi? 1492, année Colombe, débute une hécatombe. Mohican, Cheyenne, Comanche et Apache. Qu'on tue, qu'on lynche, qu'on attache et qu'on exploite à la tâche. Dès que le taf est fait, on enterre la hache.
Beaucoup de mea culpa. Mais qu'a tout fait pour que le sang ne coule plus, ne coule pas.
1848, après des ravages, on abolit l'esclavage pour ces tribus dites sauvages. Abolition pour tous, mise à part tête, même si ces chaînes cèdent. Les manifs et les révoltes se succèdent, dans leur pays tant décèdent. On emprisonne l'avocat Nelson, libération avant que son heure sonne. Sa présidence pour éviter que ça frictionne. Mais qui dirige le pays? Mandela, Larson, Watson ou Smith et Wesson? Ségrégation raciale, suivant la couleur faciale. Combien de dirigeants jugés à la cour martiale pour tous ces crimes ethniques, ainsi que les violences sociales? 1942, train terminal, solution finale. Des cerveaux qu'on lessive, déportation massive. Étoile et matricule, application du SS fascicule. Des familles qu'on accule, qu'on vend, qu'on part, qu'on manipule ou qu'on brûle. Tout ça devant les gens qui jouaient les miros et dénonçaient la planque ainsi que les héros. Croix de bois, croix de fer, nombreux ont suivi Hitler en enfer. Et ça pour chiffrer leur affaire, demande à Bayer. Et ça demande à Bayer. Certains me diront mais ça c'était hier. Ah ouais? Et aujourd'hui on fait quoi, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce flashback? Quand je vois combien de lâches, pack, flics, braque ou trac, leurs voisins juifs, beurre, blanc, black.
Je retiens rien du passé, toujours une rage insensée dans son élan bien lancé qui court, parcourt le temps sur des temps espacés.
1968, histoire de le faire taire, on assassine le King Luther, pensant que d'une balle on enterre nos rêves d'un monde égalitaire. Ce crime n'a rien d'inédit, en 65 c'est Malcolm, 63 Kennedy. Et bien avant c'est Gandhi, mais aujourd'hui l'idée a grandi. On sait qu'une poignée de bandits cherche à provoquer l'incendie. Voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit. Tout est dit.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est le groupe d'Amnesty International d'Evreux pour sa deuxième émission mensuelle.
Alors on remercie Lida Icas qui nous a fait un cadeau parce que c'est une maquette en devenir. Hein, c'est un slammer terrien qui va repartir à Toulouse et que j'adore, un peu décalé et que j'embrasse très fort. Voilà, c'était un cadeau qui est fait pour les auditeurs de Principe Actif et,
ben c'est sympa.
Et d'Amnesty International,
c'est
le
très
sang
sympa.
Des innocents. Alors, si ça vous a plu, envoyez-nous des messages parce que ben, ça serait dommage que ça ne reste qu'un cadeau. Voilà, merci Lida.
Bien, tu voulais encore nous dire quelques mots, Sabine, sur les drones, pour conclure.
Alors,
sur le sujet.
Si
et après, on va parler de bonnes nouvelles quand même.
Avec le cadeau de Lida, là, c'était vraiment inespéré. Hein. On ne s'était pas, ils savaient pas de quoi on allait parler. Donc, c'est extraordinaire, ça. C'est vraiment le cadeau, mon cadeau de Noël. Juste quelques mots. Il y a effectivement de plus en plus de drones aux USA. Il y a 40. Je l'ai déjà dit. Non. Il y a une frappe tous les 40 jours.
Hein. Non, tu ne l'as pas dit.
Il y avait une frappe tous les 40 jours du temps de George Bush. Et il y en a une tous les 4 jours du temps d'Obama. Et alors avec Donald, là, on ne va pas être bien.
Voilà, on ne sait pas. Hein.
Donc, l'armée américaine forme plus de pilotes de drones que de pilotes de chasse de l'aéronavale. Il faut savoir que les drones sont une arme qui défie le droit. Et les tireurs de drones n'étant pas présents sur le territoire, leur risque vital est inexistant. Pour l'opinion américaine, qui a été traumatisée par de nombreuses guerres et de nombreuses pertes de soldats, ils se souviennent encore du Vietnam et du reste, c'est un véritable progrès. Ils considèrent ça comme un progrès. Donc, aujourd'hui, ça va être les gens qui vont piloter, qui vont diriger ces drones, vont se lever, vont aller au travail, vont tuer, vont rentrer chez eux, coucher les enfants peut-être. Voilà,
en anglais,
un bon
dit,
père de famille.
En anglais, on dit business as,
voilà.
As usual.
Donc, ça fait peur, quoi. Amnesty International a fait une story 4, justement, sur les drones. Donc, je pense qu'on en parlera à la prochaine émission.
Il faut juste dire que les stories, ce sont des vidéos, enfin des dossiers qui sont montés, qui sont sur le site internet d'Amnesty. Hein. Donc, vous pouvez les consulter.
Vous pouvez y aller, hein, vous si vous voulez les lire avant. Hein.
Et celle dont vous parle Sabine porte le numéro 4.
Et je voulais juste un coup de gueule par rapport à Alep, hein, où des forces gouvernementales ont massacré, exécuté de sang-froid des civils, de nombreux enfants. Ils ont détruit des hôpitaux et le reste de la ville et du pays. Et ils ont trahi le pacte, un pacte de guerre qui était de ne pas toucher justement au drapeau blanc et de ne pas toucher aux civils surtout. C'est un véritable crime de guerre. Et aucune nation au monde n'a osé intervenir, n'a pu intervenir. Et ça fait 5 ans que ça dure. Et au bout du compte, on a juste gagné le droit d'avoir des observateurs. Oui. Là, je me dis qu'on déconne. Alors, par rapport à ça, je me dis que les robots tueurs, il va falloir y aller parce que ça nous pend au nez, quoi. Hein, quand on voit que des milliers de gens ne comptent pas aux yeux de ces criminels, parce qu'il faudra qu'un jour ils en répondent.
Là, c'est bien. C'est bien
tuer proprement, pourquoi pas, je pense.
C'est bien ce à quoi s'attaque aussi Amnesty International, de juger les criminels, mais c'est un autre grand travail.
Mais il va falloir qu'on change de tactique, là, parce que là, ça ne marche plus.
Qu'est-ce que tu veux mettre comme tactique?
Là, je ne sais pas, il va falloir y réfléchir.
Sabine va proposer de nouvelles formes d'action pour l'année à venir.
Il va falloir qu'on ressorte avant que les robots y viennent, hein, parce qu'après, on ne peut plus. Hein.
On attend de savoir ce que tu nous proposes. Par contre, on a parlé de choses très un peu dures, là, mais c'est quand même les fêtes de fin d'année, donc c'est vrai qu'Amnesty... C'est vrai qu'Amnesty, donc comme je vous disais, quand même répertorier un certain nombre de bonnes nouvelles pour l'année 2016. Et c'est important quand même qu'on vous en parle, donc on va en parler avec Sabine. On va en parler en deux fois parce qu'il y en a quand même pas mal, heureusement. Et donc voilà, on va vous en parler à tour de rôle. Donc vas-y, Sabine, commence. Donc c'est une petite compilation de ce qu'on a obtenu en 2016.
Alors, partout où l'on regarde, 2016 semble être considéré comme une terrible année quand même. Mais grâce à vous, on a quand même trouvé de nombreuses raisons de se réjouir un petit peu. Cette année, vous nous avez aidé à libérer plus de 650 personnes, soit presque 2 par jour, qui étaient détenues injustement, souvent victimes de mauvais traitements. Ensemble, nous avons contribué à modifier la législation dans 40 pays. Nous avons amené l'instance mondiale du football à prendre des comptes, à rendre des comptes et réussi à faire condamner des criminels de guerre. Au cours de cette année, pleine d'incertitudes, nous avons trouvé une chose dont nous pouvons être certaines. L'indignation ne suffit pas. Les choses changent lorsque nous agissons ensemble.
Ça, c'est une maxime très amnistienne.
Ah ouais, et puis le petit père qui est parti là, hein, les indignés, petite pensée pour lui ce soir aussi. Donc, voici 33 manières dont vous avez contribué à changer des vies dans toutes les régions du monde cette année. Donc, un grand merci à chacun. Il faut continuer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, la plupart de ces gens qui ont été libérés sont des gens qui n'étaient absolument pas connus. C'est le paysan, c'est l'institutrice, c'est le journaliste, c'est le reporter, c'est des gens aux quatre coins de la planète qui se sont retrouvés dans des situations pas possibles. Et grâce aux pétitions, et oui, ça marche encore un peu. Alors, il faut y aller, il faut continuer.
Alors, en premier, vous avez peut-être entendu un petit peu parler, parce que ça a quand même fait la une de certains médias. Albert Woodfox, aux États-Unis. Il a enfin été libéré en février après avoir passé 43 ans et 10 mois à l'isolement dans une prison d'État de Louisiane. Et il nous a dit « Recevoir des lettres de personnes du monde entier est très important. Cela m'a donné un sentiment de valeur. Cela m'a donné de la force, m'a convaincu que ce que je faisais était bien. » Plusieurs centaines de milliers de sympathisants ont appelé à sa libération dans le cadre de la campagne Écrire pour les droits, qui s'appelle en France, l'anciennement le marathon des signatures, qui s'appelle maintenant 10 jours pour signer. Voilà.
Et vous pouvez toujours signer d'ailleurs. Hein.
Enfin, plus pour lui, parce qu'il est libéré.
Non, mais pour les 10 autres. Et ceux qui passent entre deux. Le deuxième, c'est Mazen Mohamed Abdallah. Pardon. Un Égyptien libéré en février. Cet adolescent de 14 ans avait été violé par des membres des forces de sécurité qui voulaient à tout prix lui arracher des aveux. Amnesty International a été la première organisation à révéler cette histoire en déclenchant une large couverture médiatique qui a mis les autorités égyptiennes dans l'embarras et les a poussées à libérer Mazen. Il n'y a aucun mot assez fort pour exprimer ma gratitude. Merci Amnesty, dit-il, de m'avoir ramené son fils, dit sa maman.
Alors, la troisième bonne nouvelle concerne Constantine Beskoroniani. Renan n'est pas là pour dire que les noms d'Amnesty sont souvent imprononçables, c'est moi qui le dis, et qui nous vient d'Ukraine. Libéré en février grâce à la pression des sympathisants d'Amnesty International, 12 autres hommes et une femme ont été libérés en juillet et août, après un intense travail de plaidoyer mené par Amnesty et Human Rights Watch. Toutes ces personnes étaient enfermées dans un centre de détention secrète à Kharkov, dans le nord de l'Ukraine. Au cours des rencontres que nous avons organisées tout au long de l'année, nous avons présenté à maintes reprises aux autorités ukrainiennes une liste de noms parmi lesquels figuraient ceux de Constantine et de 13 autres personnes. « Merci pour le travail que vous nous avez fait », nous ont-ils dit. « Je pensais ne jamais être libre. »
Alors, le suivant, c'est Mahmoud Hussein. Je retourne en Égypte, qui a été libéré en mars, un étudiant de 20 ans, qui a passé plus de 2 ans de détention sans procès. Il a été arrêté à 18 ans en 2014 parce qu'il avait juste porté un t-shirt sur lequel figurait le slogan « Nation sans torture ». Je suis tellement reconnaissant envers vous, les militants d'Amnesty International, qui avaient lancé des campagnes pour me soutenir, a-t-il déclaré. Cela m'a donné tant d'espoir et je me suis sentie vraiment soutenue, car même si j'étais coupée du monde dans un cimetière pour les vivants, j'étais toujours vivant dans l'esprit des gens. Quelques 145 000 personnes à travers le monde ont agi en faveur de sa libération dans le cadre de notre campagne Stop Torture.
Voilà, le cinquième, on va peut-être pas faire les 33 parce que ça va être un peu long, mais on va en faire un certain nombre. Le cinquième, vous en avez déjà entendu parler aussi dans nos émissions, si vous nous écoutez régulièrement, ça concerne Pho Pho Hang au Myanmar, qui a été libéré en avril. Des sympathisants d'Amnesty International dans le monde entier ont écrit plus de 394 000 lettres, courriels, tweets et autres messages en sa faveur durant la campagne des 10 jours pour signer. Elle a été libérée en même temps que beaucoup d'autres manifestants étudiants. Elle nous a dit « Je tiens à remercier du fond du cœur chacune et chacun d'entre vous. Pas juste pour vos efforts en raison de ma libération, mais aussi pour nous avoir permis de garder espoir et foi en nos opinions. » Maintenant, on va aller au Salvador.
Allez. C'est Maria Teresa Rivera qui a été libérée en mai. Femme de 33 ans, qui avait été condamnée à 40 ans de prison en 2011 parce qu'elle avait fait une fausse couche. Eh ouais, c'est délirant. En 2011, des milliers de militants d'Amnesty International à travers le monde ont écrit des lettres en sa faveur, en demandant aux autorités salvadoriennes de cesser de considérer l'avortement comme une infraction pénale. « Je suis très reconnaissante à toutes les femmes et tous les hommes qui ont suivi mon cas avec une bougie allumée et qui espéraient que je serais libérée », nous a-t-elle dit.
Alors, après le Salvador, on va aller en Angola. En Angola ? Ah oui, j'avais sauté une ligne, pardon. Donc en Angola. Il s'agit de José Marcos Mavungo, qui a été libéré en mai. Il a été déclaré coupable en septembre de rébellion pour avoir participé à l'organisation d'une manifestation politique. Alors, attends, il y a chose que je ne comprends pas là. Excusez-moi, j'avais mal lu. Il a été libéré en mai, après avoir été déclaré coupable en septembre de l'année précédente de rébellion pour avoir participé à l'organisation d'une manifestation pacifique. Voilà.
Heureusement qu'il a été pacifique à la manif, hein, parce que...
Après, on va donc aller en Azerbaïdjan.
Alors, c'est Kaidja Ismailova, pardon, libérée en mai à l'issue d'un recours. La Cour suprême a ramené la condamnation de cette journaliste primée de 7 ans et demi de prison ferme à 3 ans et demi avec sursis. Avant elle, 11 autres personnes, dont des journalistes de premier plan, ont été libérées en mars après un travail intensif de pression et de campagne que vous avez tous soutenu pendant 2 ans.
Voilà, et on va peut-être faire une dernière pour l'instant. Celle-là aussi, vous avez dû en entendre parler, parce qu'on en avait parlé plusieurs fois sur l'antenne dans l'année précédente. Ouais. C'est Yesenia Armenta au Mexique. Elle a été libérée en juin.
Pendant plusieurs années. Parce que...
Elle avait été placée en détention le 12 juillet 2012. Ouais. Elle avait été pendant 15 heures frappée, pratiquement asphyxiée, violée et forcée à avouer, entre guillemets, son inculpation dans le meurtre de son mari. Les sympathisants d'Amnesty International sont intervenus environ 300 000 fois en sa faveur dans le cadre des campagnes Stop Torture et des 10 jours pour signer. Quand je reçois toutes ces lettres qui m'assurent que je ne suis pas seule, a-t-elle déclaré, je me sens bien. Je me dis oui, c'est vrai, je ne suis pas seule. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour l'instant. Encore une fois, vous avez tout ce dossier avec toute l'intégralité de toutes ces informations sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr. Une petite rubrique qui s'appelle effectivement sur le bilan de l'année 2016. Et on va peut-être écouter quelques notes de musique.
Allez.
Just like the world.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux pour la dernière partie déjà de l'émission, la dernière émission de 2016, en attendant la reprise au mois de janvier. Donc on va continuer à vous parler des bonnes nouvelles que Amnesty International au niveau mondial a compilées pour cette année 2016. Il y en a donc plus d'une trentaine, on ne vous lira pas les 30 hein, parce que ça fait trop. On vous en parlera encore de quelques-unes et comme ça vous aurez tout le plaisir d'aller compléter en allant sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr. Et tout à l'heure, en aparté, on se disait que Sabine a parlé tout à l'heure de la mort de quelqu'un des indignés et on se demandait un petit peu effectivement de qui elle voulait parler. Ça ne nous avait pas frappé sur le
moment.
J'ai
eu une petite pensée.
Et c'était qui en fait,
Stéphane
Sabine alors
Essel.
C'était Stéphane Essel. Voilà. Voilà.
Et j'arrivais pas, j'avais je vois le personnage, mais j'avais pas le nom.
Elle ne trouvait pas son nom. Voilà. Donc, il s'agissait de Stéphane Essel que tout le monde connaît effectivement. Donc vas-y Sabine pour la 11e bonne nouvelle.
Alors on retourne au Mexique. Et c'est Ildefonso Zamora Baldomero, qui est un militant écologiste et prisonnier d'opinion, qui avait été injustement privé de liberté depuis 9 mois. Il a été libéré le 12 août et envoie ses sincères remerciements à toutes les personnes d'Amnesty International dans le monde. Je n'ai pas les mots pour vous dire combien je vous remercie, dit-il. Votre action changera des vies. Écrivez pour les droits d'une personne aujourd'hui, agir maintenant. Manifestation en faveur de Belen. Je crois que je suis passée à autre chose. Là.
Elle a débordé.
Pas pour une autre fois.
Et tu as débordé. Donc voilà. Alors, effectivement, la 12e bonne nouvelle, c'est que ça concerne l'Argentine et quelqu'un qui s'appelle Omar Otfar à Belém. Libéré de sa détention provisoire en août. Plus de 120 000 personnes à travers le monde ont signé notre pétition en faveur de sa libération adressée aux autorités locales en juillet. Cette femme de 27 ans avait été condamnée à 8 ans de prison après avoir fait une fausse couche. La décision finale concernant sa condamnation n'a pas encore été rendue. Et la 13e, on vous en avait déjà parlé, c'est Sabine qui va vous la lire.
120 000
on vous en avait déjà parlé.
170 000, 240 000. Fois, on se dit, oh, c'est rien du tout, les pétitions, là. Mais c'est
même.
Vrai que bout à bout,
c'est ce qui fait la différence.
Ville après ville, pays après pays.
C'est ce qui fait la différence.
Ça marche. Donc, il faut continuer. Votre signature a du pouvoir. À vos stylos après l'émission. Alors, on part en RDC.
La République démocratique du Congo. Vous en avez déjà parlé aussi de ces gens-là à plusieurs reprises.
Fred Boma et Yves Makwamba, qui ont été libérés en août. 170 000 personnes sont intervenues en leur faveur. Hein, ce sont des jeunes militants de la République démocratique du Congo qui, dans le cadre de la campagne Écrire pour les droits, chaque lettre, chaque visite, chaque mot nous a rendus plus forts et a renforcé notre détermination à mener cette longue mais juste bataille pour la liberté et la démocratie, a déclaré Yves. 10 autres militants de lutte pour le changement, Lucha. D'ailleurs, il y en a qui viennent d'être arrêtés encore cette semaine.
Récemment, oui. Ah. Parce que rien n'est calme en République démocratique du Congo, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et on gagne, on a une libération et puis on a des gens qui se font arrêter, ça continue. Quoi. Donc l'organisation dont Fred et Yves sont membres, Lucha, ils ont également été libérés en 2016. Voilà, on est ravis pour toutes ces libérations.
Bien. Donc, on rappelle qu'il y en avait combien ? C'est ce que disait Amnesty au début de cette petite chronique. 650 personnes ont été libérées sur les actions d'Amnesty en 2016. 650. Voilà.
Mais c'est 32 petits coups de chapeau parce que 650.
Non, bien sûr que non. Non, c'est au niveau mondial. C'est au niveau mondial. Mais il y a effectivement 32 bonnes nouvelles. Après, c'est sur des cas plus généraux. Ce n'est pas forcément que des prisonniers. C'est aussi par rapport à des campagnes et des avancées en termes de législation, enfin, etc. Mais on vous laisse la surprise. Allez sur le site d'Amnesty et amnesty.fr pour lire la suite de ce dossier.
Et on vous fera part de quelques-unes.
Qui est quand même quelque chose qui peut que nous inciter à continuer à militer. On approche quand même maintenant du terme de l'émission, petit à petit. On va vous parler de notre actualité locale. Il y avait aussi, mais on va peut-être commencer par une chronique culturelle. Ce soir, Mina n'est pas là pour la chronique culturelle, mais Sabine m'a dit tout à l'heure qu'elle voulait vous parler de deux choses. Donc, vas-y, c'était quoi ?
Alors, il y a un film qui sort le 4 janvier, qui s'appelle Neruda. de Pablo Larraín dans les convulsions politiques du Chili de 1948. Un flic rêveur traque un poète farceur et néanmoins sénateur communiste, Pablo Neruda, au sommet de sa gloire. Cette farce tragicomique est une savante construction, un jeu de piste à la Pérec, magnifiquement joué, notamment par Gael García Bernal, plus énigmatique que jamais. Il sort le 4 janvier, si vous avez l'occasion. Allez-y.
On espère qu'il passera à Évreux, on ne sait pas du tout.
Mais
et donc, tu voulais aussi nous parler aussi d'une expo, mais je peux en parler si tu veux. Mais
non,
vas-y.
Mais tu vas continuer avec tes...
Bah voilà.
locales. Et il y a une expo aussi qui s'appelle L'art du soulèvement et qui part à la recherche des colères populaires.
Mais c'est une expo à Évreux ou non? C'est pas une
expo
non, à Évreux.
Non, c'est à Paris. C'est jusqu'au 15 janvier au musée du Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, à Paris. C'est fermé le lundi. Vous pouvez regarder sur internet jeuxdepaume.org. J'ai un peu de temps là.
Oui, oui.
Il y a toujours un sentiment mitigé quand les bribes de culture populaire se figent sur des cimaises des musées. Croissant d'actualité, les sources historiques et le travail de plusieurs artistes comme Michaud, Goya, Manet, Miro, Man Ray, Courbet, Picasso. L'exposition Soulèvement présentée au Jeu de Paume à Paris, tente un pas de côté. Depuis une dizaine d'années, la planète est gagnée par des mouvements populaires. Soulèvement des peuples s'enflammant contre les dirigeants. L'injustice ou la misère, ou les trois à la fois. Les printemps arabes, la révolution orange en Ukraine et celle des roses en Géorgie. Les groupes de jeunes au Burkina Faso ou en République démocratique du Congo. Les insoumis et leurs formes diverses en Grèce, en Espagne, en Israël, aux États-Unis ont été des moments d'insurrection citoyenne. Par essence, le soulèvement est toujours un événement, comme le souligne le philosophe Antonio Negri dans le remarquable catalogue de l'exposition. Le soulèvement est en effet inattendu, déroutant, parfois violent. L'émeute, écrit Victor Hugo, dans Les Misérables, est faite par des êtres qui pensent, des cerveaux qui rêvent, des âmes qui souffrent, des passions qui brûlent, des misères qui hurlent. C'est ces instants de transparence, de transcendance, pardon, d'exaltation, voire de folie, qu'a voulu capter Georges Didier Huberman, lui aussi philosophe et commissaire de l'expo. Peintures, photos, pages de journaux, manifestes, vidéos, autant de moments imaginés par des artistes et par des écrivains. Victor Hugo, mais aussi Federico Garcia Lorca, Pier Paolo Pasolini, qui ont accompagné le soulèvement. Quand ils n'en ont pas été victimes, comme Garcia Lorca, c'est cette très belle et importante exposition qui a su dénicher les traces de la colère, donne à réfléchir sur l'engagement artistique. Elle souffre cependant d'une scénographie parfois complexe et de cette manie très tendance dans les musées, des murs gris, de la lumière chiche. Ce refus de mettre en lumière des œuvres les plonge dans une sorte de terne indifférence alors qu'elles évoquent rage et colère. Je pense que c'est une expo qui peut être vraiment très sympa.
Tu nous rappelles le titre ?
Alors, L'art du soulèvement, jusqu'au 15 janvier, au musée du Jeu de Paume. Et je crois qu'ils ont fait aussi le Jeu de Paume aux éditions Gallimard, qui coûte 49 euros. Mais si vous n'avez pas fini vos cadeaux de Noël, ça peut être sympa.
Ah bon,
et voilà, et c'est une ambiance qu'il ne faut pas oublier.
D'accord. Bon, pour revenir à notre actualité locale, bon, nous, parce qu'on parlait de cinéma tout à l'heure, on vous rappelle, alors on n'a pas encore la date définitive, mais on vous la précisera dans la prochaine émission, celle du début du mois de janvier. Ce sera probablement aux alentours du 22, 23, 24 janvier. Une soirée qu'on va organiser au Ciné Pâté. Autour du film, on vous en avait parlé la dernière fois, qui est sorti au mois de décembre et qui est soutenu par Amnesty, qui s'appelle Bienvenue, et qui est un film ironique et avec un trait d'humour sur le problème de l'accueil des réfugiés, et ce qui est un peu une autre approche que l'approche un peu dramatique ou un peu la une de l'actualité un peu dure qu'on a en ce moment. Donc voilà, le film, on ne l'a pas encore vu, mais on est en pour parler avec le cinéma et on pense que ce sera aux alentours du 25 janvier. Mais on vous en reparlera, écoutez aussi Principe Actif, qui en parlera aussi dans ses différentes émissions. Voilà. Sinon aussi, actualité locale. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voulait vous dire parce que pour nous, c'est une mauvaise nouvelle.
Travers.
C'est une mauvaise nouvelle. On a appris par les copains de l'abordage que l'abordage allait probablement déposer le bilan rapidement suite à l'arrêt des subventions de la ville d'Évreux et que donc le festival de rock dans tous ses états, au moins en tant que tel, allait disparaître. Bon, il ne nous appartient pas du tout de porter un commentaire sur les dessous financiers.
C'est pas sympa.
Et qui sont à la base des discussions.
Et je suis gentil.
Voilà. Mais bon, nous, ce qu'on a, notre point de vue, c'est de dire que les gens de l'abordage, qui au fil du temps et de notre participation au festival, parce que ça fait très longtemps qu'on y vient, étaient devenus aussi des amis. C'était pour nous un moment militant important, et c'est là-dessus effectivement qu'on a quand même notre mot à dire. C'était un moment militant important, on avait la possibilité de nous montrer nos actions, et on avait aussi la possibilité, au fil du temps, de les montrer également quand c'était possible sur scène. Sabine, à côté de moi, est bien placée pour dire qu'on avait fait par exemple des die-in, dont un dont on se rappelle avec les Tambours du Bronx, ça devait être en 2011 si j'ai bonne mémoire, ou 2010, je ne me souviens plus. On a eu aussi la possibilité de parler du traité sur les armes avec Manu Chao un peu plus récemment. Et on a eu la possibilité aussi de parler des actions urgentes d'Amnesty. On vous a parlé des gens qui sont libérés. Les actions urgentes, ça sert aussi à ça. Et d'en parler avec, c'était Woodkid, si j'ai bonne mémoire. Oui. On va faire une compilation de tout ce qu'on a fait. Bon, c'est pas pour dire qu'on était indispensable au Festival Rock, mais c'était quand même quelque chose qui pour nous était important. Et que quand on parle de défendre les droits humains, il faut bien sûr mobiliser le public. C'est indispensable, surtout par rapport à la philosophie d'Amnesty. On n'est rien sans l'action du public, c'est clair, et rien sans l'action des gens qui nous soutiennent. Et effectivement, on ne peut plus aller dans des manifestations comme le Festival Rock, le Rock dans tous ses états, puisque ces événements disparaissent les uns après les autres, eh bien nous, on en paye forcément quelque part en tant que militants les pots cassés. Et là-dessus, effectivement, on estime que c'est de toute façon, quels que soient les tenants et les aboutissants de cette décision, on estime quand même que c'est quelque chose qui est très fâcheux, pour employer un terme poli, qui est très fâcheux par rapport à notre actualité et à notre vie militante locale. Donc voilà, on a un petit souvenir un peu avec le cœur pincé vis-à-vis des copains de l'abordage qui eux sont en première ligne et qui en subissent effectivement les pots cassés directement. Et voilà, on les soutient, on les remercie pour leur confiance depuis des années au niveau du Festival Rock. C'est pas souvent, ça on l'oublie toujours, mais c'est pas souvent que des organisateurs de ce genre de manifestation acceptent que des associations pour qui ils ont de la sympathie, ils ne nous l'ont jamais caché par rapport à ce qu'on fait, acceptent qu'on aille trouver des gens pour essayer de parler sur scène, nous faire parler de nous, enfin, etc. etc. Et qui nous facilitent les choses par rapport à ça. C'est une situation très particulière qu'on a beaucoup appréciée. Et ne serait-ce que sur ce plan-là, on ne sait pas ce dont l'avenir sera fait, mais sur ce plan-là, c'est sûr que de toute façon, on regrettera Fabien et Eddy, par exemple, pour ne pas les nommer, et Alice aussi, qui nous a beaucoup aidés. On pense bien à vous. Les fêtes de Noël, ce n'est pas gai pour vous non plus. Les fêtes de fin d'année, mais bon voilà, on voulait quand même dire que c'est dommage pour notre action de militant de nous retirer des endroits où on peut effectivement amener les gens à se mobiliser.
Et surtout de retirer un festival aux jeunes, ils sont créés partout, mais non, à Évreux, on le retire, pour trouver l'erreur. J'ai aussi souvenir que c'était lors du premier die-in qu'on avait fait, où on a parlé de support au niveau de la radio et de
exactement,
de,
ah oui,
de
très
manière
bien.
De, je trouve pas mes mots,
j'avais pas pensé à
de
ça,
continuer,
mais c'est vrai,
l'idée, puis les combats, et on nous a dit banco quand vous voulez.
C'est vrai que les premiers contacts,
il y en a qui ont été très longs à se décider.
Les premiers contacts avec Principe Actif, c'était dans le cadre du festival Rock, on les a eu très juste, Sabine, tu vois, je pensais plus à ça.
Merci à tous.
Donc voilà, pour nous c'est une très mauvaise nouvelle effectivement d'être privé de ce tremplin militant, c'est clair. On va peut-être
en espérant que l'année qui vient va un petit peu changer les mentalités de nos dirigeants.
Voilà, il nous reste
peut-être
10 minutes. Pour une fois, on finit jamais comme ça, mais on pourrait peut-être passer quelques mesures de musique tout de suite. Et puis, juste avant de vous dire
le
au revoir.
Le ciel astral de 2017.
Et bien voilà, donc c'était U2 pour finir l'année, New Year's Day, et la nouvelle année, donc bonne année à tout le monde,
oui,
et donc on va
rendre
l'antenne tout de suite pour Manu qui est juste devant nous et qui va enchaîner avec le laboratoire, donc bonne année à tout le monde, merci de votre écoute pendant l'année, et nous on se retrouve le mardi 17 janvier pour notre première émission de l'année 2017, donc ce sera le 17 janvier, en 19h, toujours sur l'antenne de Principe Actif.
Allez, une bonne fin d'année à tous.
Bonne fête à tous.